Bienvenue à tous et à toutes. Merci à Marlene et aux musiciens, choristes qui nous ont accompagnés pendant la première partie de ce culte. J'ai essayé de courir plus vite qu'elle, mais il n'y a rien à faire. La presbytie m'a rattrapé. Voilà, plus sérieusement. Un diaporama déjà pour nous présenter l'association Baptiste. Alors, l'association Baptiste, on va dire c'est un diminutif, le sigle c'est AEEBLF. Que veut dire AEEBLF ? Je vous écoute. Allez, le A. Association. Association, j'ai entendu d'église. Ah, j'ai entendu évangélique. Voilà, association évangélique d'église, d'apostrophe église et non pas des églises. Association évangélique d'église, le B baptiste, LF de langue française parce qu'effectivement, ça concerne des églises qui sont en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Vous avez une idée de combien d'églises cela représente ? Allez, on passe à la diapo suivante, vous allez voir. 55 églises en France, 5 en Suisse, 7 en Belgique. Ça fait donc au total 67 églises qui sont membres. Et puis également des implantations au nombre de 9, qui sont essentiellement en France, et on voit donc toutes ces églises ici, en rouge les églises, disons, membres, et en bleu les implantations, alors un petit peu dans le sud de la France, sud-est, aussi un petit peu au sud-ouest, et puis un certain nombre aussi dans la région parisienne. L'association Baptiste se découpe en trois unions, la partie France, l'Union France, l'Union Suisse, l'Union Belgique, et chacune de ces unions est rattachée à une structure inter-évangélique. Et dans le cas qui nous concerne, nous, la France, nous sommes rattachés au CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, qui représente 2500 églises en France. Et au sein du CNEF, il y a plusieurs pôles, selon les tendances théologiques qui sont, et historiques aussi, qui sont en présence. Et nous sommes rattachés au réseau FEF, le réseau fraternel évangélique français, qui lui-même rassemble 700 églises sur les 2500 du CNEF. Dans le réseau FEF, il y a un comité théologique qui travaille et qui publie régulièrement aussi des choses sur des sujets importants. Vous pouvez vous reporter à cela sur leur site internet réseau FEF. Revenons à l'association Baptiste avec les commissions, 9 commissions qui servent à la structure de tout ce qui est fait. Commission jeunesse, on en entend souvent parler, avec la convention jeunesse Baptiste notamment, qui avait eu lieu l'année dernière. La commission des ministères, la commission de la communication, la commission du lien fraternel, etc. Tout cela réparti en domaines, et ce sont les différents organes opérationnels de notre union d'église, l'association Baptiste. Il y a eu une rencontre qui s'est vécue l'année dernière, en janvier de l'année dernière, sur la thématique du bien vivre ensemble dans notre union d'église avec la diversité qui compose notre union. Et cela a donné lieu à un projet Horizon 2030 qui est composé, en fait, c'est un groupe de personnes qui représentent les différentes nuances théologiques, mais aussi les différences culturelles, régionales, générationnelles de notre association, et qui a pour mission de réfléchir à notre identité et aussi à nos priorités, puis de définir la vision, quel horizon on veut pour 2030, dans 5 années. Donc certainement, il y aura d'autres communications dans les mois, les années à venir à ce sujet. Un des défis pour la commission des ministères, c'est de former les futurs serviteurs. Et l'association Baptiste cherche en permanence des lieux de stage, parce que c'est une clé importante pour la formation au ministère, avec des expériences qui sont vécues sur le terrain, des aides aux églises, aux pasteurs, aux étudiants, aux stagiaires sont possibles, et c'est toujours sur la demande de l'église locale. Et l'association de 2 Timothée 2, verset 2, qui accompagne des stages et de découvertes au ministère, pastoral ou autre. On en a entendu parler ces dernières semaines, et c'est l'occasion de faire une dernière annonce à ce sujet sur le lien fraternel qui a évolué. Aujourd'hui, le lien fraternel est disponible en version payante comme avant, mais à raison seulement de 3 exemplaires ou 4 exemplaires dans l'année. 4 numéros imprimés par année. Et tous les autres numéros sont disponibles en ligne et on peut s'abonner gratuitement pour les recevoir, recevoir en tout cas le lien pour le télécharger et donc le lire en version électronique. Et pour le reste, il faut toujours payer pour avoir accès à l'abonnement papier. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à vous rapprocher de Michel Carterade, ce sera la dernière annonce à ce sujet. On l'a suffisamment dit ces dernières semaines, mais voilà, c'était l'occasion de réappuyer encore cela une dernière fois. Juste encore une information avec les différents points forts de l'année qui sont rassemblés ici. On voit au mois de février, aujourd'hui le dimanche de l'association, le congrès de Pâques IBG, où l'association Baptiste aussi veut être présente et encourage ses membres de la jeunesse à s'y rendre. La pastorale générale à Évian, qui aura lieu à fin avril et début mai. Le forum des pasteurs, il y en a régulièrement, environ 3 par année, où on se rassemble en Zoom pour partager des sujets de prière, prier les uns pour les autres. La convention générale, j'en dis pas plus, tout à l'heure Marlene nous en a parlé de cette convention fin juillet. Il y a également, vous trouverez sur le panneau d'affichage l'affiche à ce sujet. Le camp de formation biblique, qui a lieu tout près d'ici, puisque c'est à la source, chaque année en général, et donc là du 10 au 16 août. Et puis l'Assemblée Générale, toujours par tradition, le dernier samedi du mois de septembre. Ce sera donc le 26 septembre cette année. Nous sommes invités à nous porter dans la prière, à être sensibles de ce que nous sommes effectivement une église locale ici, mais dans une réalité beaucoup plus grande, avec l'association Baptiste et plus largement le monde évangélique, le CNEF et l'église, comme disait Marlene tout à l'heure, avec un grand E, l'église de Dieu. Et pour faire suite à ce que nous venons d'entendre dans la première partie de ce culte, je vous invite, je passe à la prédication maintenant, je lis ça aussi pour la technique, merci Paul, à lire un texte dans la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, et nous allons lire tout le chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, le texte qui est affiché maintenant, c'est le texte de la colombe. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car de même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils dans langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. L'Église de Corinthe vivait un certain nombre de défis et de tensions dans son sein, et c'était dû en grande partie à la composition de cette Église, et plus largement à la composition de l'ensemble de la ville de Corinthe. Si on regarde sur une carte, Corinthe se situe, c'est en plein milieu ici, dans l'Achaïe, Athènes, enfin à côté d'Athènes, donc en Grèce. Corinthe se situe à un carrefour commercial nord-sud et est-ouest. Et avec ces échanges commerciaux, il y avait tout un ensemble d'autres choses qui se croisaient, des religions, des philosophies, des cultures différentes. Et par conséquent, ça donnait une coloration particulière et une forte diversité dans la ville de Corinthe. Et cette coloration, cette diversité se voyait aussi jusque dans l'Église, avec les défis que cela peut représenter. L'Église de Corinthe était particulièrement tourmentée et fortement menacée par la division avec des esprits de clan, des controverses, des problématiques. Et c'est dans ce contexte tourmenté que Paul exhorte cette Église de Corinthe à retrouver l'unité en son sein. Et pour cela, il introduit une image qui est vraiment très importante, bien sûr pour l'Église de Corinthe en son temps, et qui est un principe à vivre pour nous encore aujourd'hui, pour toute Église, quelle qu'elle soit. Et cette image, C'est celle qui est présente dans ce texte d'1 Corinthiens 12, l'image du corps. À la lumière de ce texte, nous allons voir trois notions et pour expliquer ce que veut dire ici l'image du corps, et puis ensuite deux prolongements plus courtement qui sont des applications concrètes aussi pour nous aujourd'hui. D'abord, trois notions, et la première d'entre elles, c'est l'unité. L'apôtre Paul répète bien des fois des termes, des expressions, une seule. L'unité, elle est très présente dans tout ce chapitre. Tout cela pour marteler qu'elle est primordiale. Elle est même au service d'un même Dieu. En même temps, l'unité est un défi. Dès lors que deux personnes se regroupent pour mener une tâche, une entreprise, l'unité devient un défi. Et dans l'Église aussi, Dieu bâtit son Église, on l'a entendu tout à l'heure dans la première partie de ce culte, de sorte qu'elle est unie, et c'est ensuite à nous d'entretenir, de maintenir, de conserver cette unité, comme le dit Paul dans Éphésiens chapitre 4. L'ennemi, le diable, cherche à diviser. Il cherche à semer la division dans l'Église. Et l'unité de l'Église n'est pas quelque chose de facile. Elle ne va pas de soi. Autrement, Jésus n'aurait pas prié pour son Église. Et on a lu aussi tout à l'heure, dans la première partie de ce culte, Jean 17, en tout cas une partie de Jean 17, où on voit que Jésus prie pour que son Église, son peuple soit un, tout comme lui, le Père, sont un. Si les premières églises, il y a 2000 ans, étaient restées parfaitement unies, ce seraient bien des passages du Nouveau Testament qui n'auraient jamais eu besoin d'être rédigés. L'unité est un réel défi. Donc, première notion ici, l'unité. Et cette unité, nous la voyons aussi dans notre union d'église, qui est l'association baptiste, plus largement aussi au niveau du réseau FEF, et plus largement encore avec le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Au sein de l'association baptiste, nous avons une même confession de foi. On peut, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller la lire, elle est sur le site internet de notre église. Décidément, ce matin, peut-être si tu peux relayer Paul. Voilà. Bon. On a une même confession de foi, et cette confession de foi, elle définit les points de doctrine essentiels et sur lesquels nous ne saurions être en désaccord. Cette confession de foi, peut-être ça va vous surprendre, mais elle est lue au début de chaque assemblée générale de notre association baptiste, donc à la fin du mois de septembre, pour nous rappeler l'essentiel de notre foi et que nous sommes unis sur cette base-là. Quels sont les points indispensables, essentiels, sur lesquels nous sommes tous d'accord, sur lesquels nous disons on est unis là, c'est la base. De même, le réseau FEF a sa confession de foi, le CNEF a sa confession de foi. Et tout cela nous rassemble. Toutes ces confessions de foi ici sont le socle commun sur lequel nous fondons notre unité et notre action. Et si dans les formations du samedi matin, nous avons ce module qui a démarré il y a une dizaine de jours maintenant et qui va se continuer tout ce trimestre, sur les fondements de la foi, c'est pour revenir sur ces choses indispensables aussi de notre foi, sur lesquelles nous sommes d'accord. Et pour voir aussi les Bibles en main, comment expliquer tout cela, comment prouver tout cela, ce que nous croyons. Seconde notion, après l'unité, vous vous en doutez, la diversité. Et l'apôtre Paul insiste sur cette diversité. Il parle de diversité de dons, diversité de services, plusieurs membres, chacun des membres, diversité de nationalités. Il évoque des juifs et des non-juifs, des classes sociales différentes, avec des esclaves, des hommes libres, etc. Diversité et unité vont ensemble. Et cela ressort tout particulièrement de ce qu'on a dans le verset 12 qui va nous être affiché. Je le relis. « De même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. » On voit ici que le corps constitue un tout uni, mais tout en étant composé d'une diversité de membres. Et l'unité ici, elle vient encadrer la diversité qui est au milieu. L'unité et la diversité vont ensemble. Et tout cela, ainsi aussi est le Christ. Paul répète des termes et des expressions comme « le même esprit, un seul esprit, le même Seigneur, le même Dieu ». L'Église est une avec une diversité en son sein, tout comme notre Dieu trinitaire est un avec une diversité en son sein, Père, Fils et Esprit. Un même Dieu en trois personnes. Et nous parlerons justement de la doctrine de la Trinité en février ou en mars dans le cadre des formations du samedi matin et on verra en quoi c'est pertinent de comprendre cela, en tout cas ce qu'on peut en comprendre. Ainsi, dans l'Église, il y a une diversité de personnes qui ont toutes en commun leur foi en un même Dieu, en un même Seigneur, Jésus-Christ. Et cependant, toute cette diversité, elle est au service, comme on le voit dans le verset 4 jusqu'au verset 7, elle est au service de l'unité commune au sein au service de l'utilité commune. Elle est au service de l'unité. J'affiche ces versets ici. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Malheureusement, dans l'Église de Corinthe, cette diversité, elle causait bien des problèmes. Des forts à l'égard des plus faibles, des problèmes d'orgueil et autres et autres, et c'était bien compliqué. Et le contexte de l'époque du 1er siècle encourageait à ce genre de discrimination les plus riches, les plus forts, méprisait souvent les plus pauvres, les plus faibles. Et ce phénomène était présent jusque dans l'Église. Notamment, on pense à ce que Paul dit dans le chapitre 11 de cette lettre, juste avant notre chapitre, avec la polémique sur les repas de la Seine et les plus riches qui n'attendaient pas les plus pauvres pour partager ce repas. Mais avec cette image du corps, Paul veut mettre en évidence la nécessité de la diversité. C'est ce qui apparaît, je ne le relis pas, mais c'est ce qui apparaît dans les versets 15 à 17. Elle est nécessaire car elle permet une complémentarité. La faiblesse de l'un peut être compensée par la force d'un autre, et vice-versa. Et cette diversité, elle est voulue par Dieu, aussi bien dans l'Église locale que dans l'Église dans son ensemble. Le verset 18 ici nous rappelle « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu ». La diversité fait partie du plan de Dieu. On pourrait penser que la diversité nuit à l'unité, que le fait qu'on soit tous différents les uns des autres empêche une bonne unité dans le corps. Mais Paul veut nous montrer le contraire. Là où on a tendance naturellement à penser que la diversité, c'est un défi, c'est quelque chose de compliqué, c'est un obstacle, eh bien l'apôtre Paul veut plutôt nous encourager à voir la diversité comme une richesse. Et on l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure, quand on parle de nos différences. Parfois, nos différences, on les monte en mur pour nous faire des barricades et pour ça nuit en fait à l'unité. Paul nous dit plutôt que la diversité vient enrichir l'unité. Elle vient la renforcer, elle vient apporter une complémentarité qui est bienfaisante pour l'Église. Deuxième notion, donc, la diversité. Et cette diversité, nous la vivons aussi dans l'association baptiste. Pas plus tard qu'à l'automne dernier, il y a eu toute une consultation qui a été faite au niveau des conseils d'église pour recenser à quel stade d'évolution sont chacune de nos 67 églises et des implantations. Quel stade d'évolution, quel stade de croissance, quel stade de ressources aussi. Parce que dans notre union d'églises, il y a des églises qui sont au stade, effectivement, de l'implantation, avec tous les défis que cela représente. Trouver des locaux, subvenir à des besoins financiers, ce n'est pas toujours simple quand on démarre, quand on implante une église. Et puis, jusqu'à des églises qui sont implantées depuis des années, des dizaines d'années, et qui ont beaucoup plus de ressources, bien souvent. Il y a des églises qui sont plus ou moins grandes, d'une quinzaine de membres à plusieurs centaines de membres. Des églises qui ont des défis différents. Certaines arrivent à être propriétaires de leur local, de leur bâtiment, d'autres non. Certaines ont un pasteur, voire même plusieurs, et d'autres peinent à en trouver un. Certaines sont situées en milieu urbain, d'autres dans un milieu rural, avec les défis propres à chaque contexte, etc. Il y a toute cette diversité, conjuguée au fait que c'est aussi trois pays, avec des législations sensiblement différentes. Et cette diversité, elle est présente même dans l'ensemble de notre monde évangélique, pas seulement dans notre union d'église. Mais toute cette diversité, elle est précieuse. Elle fait partie du plan de Dieu. Elle est belle. Et nous sommes invités à apprendre à vivre ensemble. Et à plusieurs reprises, dans notre association baptiste, on s'est réunis, comme en janvier 2024, pour réfléchir sur des problématiques. Comment bien vivre ensemble telle chose? Et maintenant, ça donne lieu à cette réflexion qui commence à être amorcée pour déterminer aussi la vision de l'association baptiste avec cet horizon 2030 dont je parlais tout à l'heure. Tout cela en vue de l'utilité commune. Verset 7 de notre passage. Et cela conduit à la troisième notion dans ce passage, c'est la solidarité. La solidarité. L'image du corps montre qu'il y a donc une unité, un seul corps, dans lequel il y a une diversité avec plusieurs organes, plusieurs membres, mais ça ne s'arrête pas là. Les organes, les membres communiquent entre eux, ils sont en relation. Il y a les vaisseaux sanguins, il y a les nerfs, il y a tout cela dans le corps humain. Et il y a cette solidarité, cette complémentarité que je commençais à évoquer il y a un instant. Dans le corps humain, dès lors qu'on touche à un organe quelque part, ça a des répercussions dans tout le reste du corps. Un organe souffre et il y a de la fièvre, il y a une douleur, il y a de la fatigue, il y a un manque d'appétit. Il en est de même dans l'Église, ou il devrait en être de même dans l'Église. Le chrétien n'est pas appelé à vivre en électron libre tout seul dans son coin, mais il fait partie d'un corps, comme dit le verset 27. Ce corps, c'est le corps de Christ, dont il est un des membres. Qu'est-ce qu'un œil ou un bras pourrait bien faire tout seul dans son coin s'il était en dehors du corps humain? Ça n'aurait pas de sens. L'œil et le bras ont besoin l'un de l'autre et ont besoin du reste du corps. Dans l'Église, c'est pareil, nous avons besoin les uns des autres. Et c'est intéressant de noter que l'apôtre Paul ne présente pas les divers organes du corps avec une hiérarchie, comme on serait en droit de le penser. On pourrait penser, et quand on va dans un service d'urgence, quand on sait retourner le doigt, on ne va peut-être pas passer en premier. On va d'abord prendre un accidenté de la route, une personne qui perd son sang, une personne qui a un gros problème de santé au niveau du cerveau, au niveau des poumons, je ne sais quoi. Paul ne présente pas les choses de cette manière-là. Il va plutôt présenter le corps dans le sens d'une interdépendance de tous les membres entre eux. Et même, il accorde une place toute particulière aux membres les plus humbles dans leur fonction. Relisons les versets 22 à 25. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Si nous pensons pouvoir nous passer du corps, c'est que nous n'avons pas compris ce que la Bible dit dans ce texte et dans l'ensemble de la Bible. Il suffit de recenser toutes les fois dans la Bible et dans le Nouveau Testament, peut-être en particulier, où nous avons cette expression « les uns les autres ». Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres, comme ça apparaît ici. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, de porter les fardeaux les uns des autres, de nous exhorter, de nous encourager les uns les autres. Et la liste pourrait être allongée. Troisième notion, donc, cette solidarité, la solidarité qu'il y a dans le corps. Cette solidarité à laquelle l'Église, le corps de Christ aussi, doit travailler. Et cette solidarité, nous la vivons aussi dans notre union d'Église. L'association baptiste réfléchit à comment mutualiser les ressources, à mettre en commun nos ressources. Par exemple, des églises qui n'ont pas de pasteur font appel à des églises qui en ont un pour venir prêcher régulièrement. Il suffit de se souvenir en arrière, pas plus tard qu'encore l'année dernière, ce que nous avons vécu dans la région ici avec l'église de Lunel et l'église de Montpellier, où plusieurs d'entre nous sommes allés dans ces églises pour y prêcher. Des églises avec davantage de moyens humains, financiers, matériels, qui viennent suppléer aux besoins d'églises qui sont peut-être un peu plus fragiles. Une église, par exemple, n'est plus en mesure de verser une indemnité pastorale à son pasteur, et ce sont d'autres églises qui vont venir en aide. Il y a un fonds bâtiment qui est alimenté par des églises avec davantage de moyens pour aider d'autres, peut-être plus fragiles, à financer une partie de leur projet bâtiment. Et on sait combien c'est difficile de trouver un bâtiment et ensuite de le financer en France et dans certaines agglomérations en particulier. Des dons aussi sont faits pour soutenir des étudiants en théologie, pour soutenir les instituts de formation eux-mêmes aussi et les personnes qui enseignent dans ces instituts, pour soutenir des missionnaires. Point de suspension. Je ne donne ici que quelques exemples, mais cette solidarité, elle est vécue et elle est belle. Et quand nous nous rendons chaque année à l'Assemblée générale de notre union d'Église, à la fin du mois de septembre, je pense pouvoir dire, pas seulement en mon nom, mais au nom des personnes qui s'y rendent chaque année, que nous repartons de là boostés, émerveillés de voir cette solidarité qui s'opère, qui se vit, pour l'utilité commune, pour la gloire de Dieu. Combien c'est beau et précieux. Unité, diversité, solidarité, donc trois notions qui se dégagent de cette image du corps. Et j'aimerais terminer maintenant en exposant plus courtement deux prolongements. Un premier prolongement qui est un défi. Le défi des relations au sein du corps. Voilà, Paul va avancer le diapo là-dessus. Dans toute église locale, il y a des caractères différents, des cultures différentes, des classes sociales différentes, des dons différents. Il y en a qui ont le don de la musique, d'autres qui ont un don pour aider, pour soutenir, pour encourager, des dons pour le service, pour la logistique, pour le service du ménage, la direction, l'enseignement, etc. Il y a des qualités, il y a des défauts différents dans une église. Beaucoup de différences, mais Paul nous exhorte à apprendre à vivre ensemble. Et cela ressort très fortement de cette image dont nous avons parlé. Il nous faut œuvrer avec les frères et sœurs que le Seigneur nous a donnés. J'ai même envie de dire, il nous faut œuvrer avec les frères et sœurs que le Seigneur nous a confiés, plus que donnés. Il nous a confiés les uns aux autres. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres, en prenant soin les uns des autres, en particulier peut-être de ceux qui sont les plus faibles, des personnes qui sont affaiblies par la maladie, des personnes qui sont affaiblies par le grand âge, des personnes qui passent par le découragement, des personnes qui passent par des épreuves particulières, par le deuil, ou que sais-je. Et puis, qui sait ? Aujourd'hui, je suis peut-être un membre qui est dans un état de santé qui permet justement d'aider plus facilement un autre qui en a besoin. Et puis demain, ce sera peut-être l'inverse. Peut-être demain, c'est moi qui aurai besoin du soutien d'un autre. Parce que cette solidarité, elle est mutuelle. Continuons donc à œuvrer à de bonnes relations les uns avec les autres. Il y a bien des choses qu'on peut faire pour apprendre à mieux se connaître les uns les autres, à mieux aller les uns vers les autres, en s'encourageant, en s'aidant, en se soutenant, en priant les uns pour les autres. Alors pour prier les uns pour les autres, il faut aussi aller aux réunions de prière, comme c'était le cas cette semaine. En exerçant l'hospitalité les uns pour les autres, en s'accueillant les uns les autres, en se saluant les uns les autres. Et d'ailleurs, à propos de se saluer les uns les autres, qui allons-nous saluer dimanche après dimanche ? Est-ce qu'on va toujours saluer les mêmes ? Ceux qu'on connaît déjà ? Ceux avec lesquels il y a des atomes crochus ? Est-ce qu'on ose aller saluer des personnes qui sont un peu différentes de nous ? Je nous invite chacun à réfléchir à cela. Est-ce qu'on va vers la personne qu'on connaît moins, la personne différente, mais que Dieu a placée là, à mes côtés, à nos côtés, et pas pour rien. J'évoquais aussi le pardon. Cela nous renvoie à ce que Pierre a développé la semaine passée dans sa prédication sur l'avant-dernière béatitude et qui nous invite à être des artisans de paix. Des artisans de paix qui se remettent en question, qui vivent la communication, qui vivent le pardon, qui accordent ou demandent le pardon. Les relations sont un défi dans l'Église, mais Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est le verset 18 que je relis. Le défi des relations, donc, c'est un défi de taille, mais il vaut la peine de rechercher l'unité parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce défi des relations. Et un deuxième prolongement, c'est ce qui nous motive pour être constructifs, pour aller de l'avant dans les actions et les défis que nous menons les uns les autres ensemble, c'est l'amour les uns pour les autres. Cet amour qui nous permet d'œuvrer au maintien de l'unité, qui nous permet aussi de respecter les différences. Quand j'aime mon prochain, je le respecte dans ce qu'il est, avec aussi ses différences, ses singularités. Cet amour qui permet aussi d'être solidaire, d'aller vers l'autre et d'être solidaire de l'autre. Vous allez me dire, mais où est-il question de l'amour dans ce texte d'1 Corinthiens 12 ? Vous avez entendu parler d'amour dans ce texte ? Alors peut-être on va relire le dernier verset qui va nous être affiché. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie par excellence, c'est ce que Paul décrit dans le chapitre après. Je ne l'ai pas affiché, mais c'est ce développement sur l'amour. Ce chapitre 13 de 1 Corinthiens, bien connu, et qui parle de l'amour. 1 Corinthiens 12 s'inscrit dans toute une argumentation qui va du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14 sur la mise en pratique des dons spirituels dans l'Église. Et Paul montre comment l'amour est ce qui permet de bien vivre cela, de mieux vivre cela. Mais le principe est valable pour tout ce que nous vivons en Église. Cet amour que nous vivons les uns pour les autres est important dans tout ce que nous menons ensemble. Et cet amour, il s'inspire de l'amour que Christ a pour nous. Un amour qui se donne, un amour qui pardonne. Je pense que nous connaissons tous ce texte de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est intéressant aussi de lire le texte de 1 Jean, la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est cette recommandation qu'il nous faut mettre en pratique pour que les membres du corps puissent vivre unis les uns avec les autres, pour que nous soyons en vivant cette unité entre nous. J'ai en tête une église, il y a quelques années en arrière, qui était particulièrement tourmentée. Et vous ne la connaissez pas, c'est pour ça que je peux en parler plus librement. Les rencontres en église, dans cette communauté, étaient devenues un lieu de règlement de comptes. Jusqu'aux mains parfois. Et une personne de cette église disait: vous savez ce qui se passe dans cette église? Il n'y a plus d'amour. Et cette église s'est divisée depuis. L'amour est la voie par excellence pour tout ce que nous vivons en église, et en particulier dans les relations les uns avec les autres. L'amour est, ou devrait être, ce qui motive toutes nos actions. Et ce n'est pas un hasard si cette première lettre de Paul aux Corinthiens contient ces invitations à l'amour, comme on le voit tout à la fin du livre, au chapitre 16, verset 14, « Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. » Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Et le Seigneur Jésus nous a laissé ce commandement que nous avons déjà lu tout à l'heure dans la première partie du culte, dans Jean, chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen.